cela veut dire que du côté du Comintern, ce sont regroupés non seulement les bons révolutionnaires, mais aussi les gens qui croyaient vraiment et sincèrement qu'on était à la veille d'un assaut frontal contre le capitalisme, que c'était une affaire de quelques semaines, tout au plus de quelques mois, que le pouvoir était à la portée de leurs mains et que, somme toute, leur contrat révolutionnaire était un contrat à court terme. Le deuxième congrès, juillet 1920, a coïncidé avec l'offensive de l'armée rouge contre la Pologne. Cette armée a subi, sous le mur de Varsovie, une défaite retentissante. La direction du parti bolchevique, la direction de l'armée rouge était contre. C'est de l'armée rouge, Tukhachevski, en disant qu'on s'éloigne trop des bases de ravitaillement. C'est du comité central et surtout les communistes polonais en disant que cette offensive contre un pays qui a été pendant plus d'un siècle opprimé par les Russes apparaîtrait à la masse d'ouvriers et de paysans polonais, non pas comme une armée de libération sociale, mais comme une armée d'oppression nationale. Il y avait donc une levée de masse, il y avait donc une défaite, où des erreurs tactiques et stratégiques jouaient un certain rôle, mais où, au fond, la défaite est inscrite dans l'histoire parce que l'immense majorité du peuple polonais, l'immense majorité du prolétariat allemand n'était pas disposé à se mettre du côté des bolcheviques. Lénine était pour. C'est là où il a dit cette phrase que je vous ai citée. Nous mettrons, s'il le faut, en question notre propre existence pour venir à l'aide d'une révolution dans un autre pays. Il a mis en question l'existence de la Russie des Soviets. Il n'est pas parvenu à aider une révolution en Allemagne. Et c'est là où commence le refus. Les illusions se dissipent lentement. La conscience retarde sur l'existence. Il a fallu toute une année pour que, au troisième congrès de l'Internationale communiste, on prenne conscience, la direction prenne conscience de ce changement total de la situation. Et la conjoncture. C'est là où Lénine lance le mot d'ordre « Allons en masse ». Il faut réaliser le front unique ouvrier, cela veut dire il faut engager les négociations avec les social-traîtres, avec les social-patriotes, avec les gens qui, par tous les moyens, ont combattu la création du mouvement communiste. Et il est bien entendu que ce jeune communiste, qui avec tant de difficultés se sont dégagés de leurs attaches anciennes, imprégnés de haine contre les gens qui ont tout fait pour les faire isoler et pour les faire échouer, que ces gens-là n'étaient nullement préparés à engager au lendemain de la défaite dans ce mouvement de repli, alors que la masse reculait, et l'avant-garde restait exposée au coup. Il fallait très vite, très vite, reculer pour ne pas être écrasé. C'était difficile. Et nombreux ont été les communistes qui ne l'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils ont cru que ce n'était pas encore joué et qu'on peut forcer les événements et qu'on peut substituer le courage, le dévouement, l'enthousiasme des quelques milliers à l'immense pesée des millions. C'est là où Lénine publie une brochure sur la maladie infantile du communisme pour expliquer que les révolutionnaires, ce ne sont pas les gens qui vont toujours en avant. Que les révolutionnaires, ce sont aussi des gens qui savent reculer quand il le faut pour éviter la défaite. Que la manœuvre, que la souplesse tactique constituent les conditions indispensables de la victoire. Eh bien, il faut croire qu'à ce moment-là, ces conditions indispensables n'étaient pas réunies puisque les communistes français, dans leur immense majorité, les communistes italiens, les communistes hollandais, les communistes allemands, puissante minorité, et un héros de la commune hongroise qui s'appelait Béla Kun, tous sont dressés unanimement contre Lénine en lui disant qu'il abandonne une plateforme révolutionnaire. Troisième congrès, aller en masse, front unique ouvrier, défendre les revendications quotidiennes, défendre le pain quotidien des ouvriers. Les révolutionnaires, les jeunes révolutionnaires de ces temps-là ne savaient pas encore le faire. Ils l'ont appris. Les leçons étaient dures. Ça coûte cher, non seulement aux intéressés, mais surtout en masse ouvrière. Et nous revenons toujours à cette époque où le 4e congrès en 1922 passe du slogan de la conviction, de la tentative d'explication à une tentative d'application. Front unique ouvrier, action commune, défense des revendications les plus terre-à-terre. Lénine est déjà très malade. Il n'arrive pas à terminer son rapport au 4e congrès. Donc le sujet est très curieux, intéressant et révélateur. C'est 5 ans du pouvoir des soviets et les perspectives de la révolution mondiale. C'est une sorte d'imbrication. Il ne le termine même pas. Mais au cours de ce congrès, il dit 2 choses qui sont extrêmement révélatrices de son état d'esprit à cette époque. Il dit d'abord que les thèses sur l'organisation du Comintern et des partis communistes qui avaient été adoptées au congrès précédent, au 3e congrès du Comintern, étaient trop russes, qu'on a d'une manière trop servile imité le modèle bolchevique. Et il dit d'une telle manière que ça pourrait peut-être avoir une portée un peu plus vaste. Nous avons fait beaucoup de bêtises. Et il faudrait peut-être très rapidement les corriger. Mais le temps lui manque. Il est malade. Ces bêtises n'ont pas été corrigées. Ce modèle russe, non seulement n'a pas été assoupli, mais a été aggravé, rendu plus rigide, appliqué d'une manière impitoyable, sans tenir compte du terrain, par les successeurs de Lénine. Quatrième congrès, 1922. Les perspectives de la révolution en Occident s'éloignent. Déjà l'année précédente, à l'intérieur de l'Union soviétique, on a été obligé d'abandonner une politique rigide de réquisition qu'on appelait le communisme de guerre, faire des concessions aux paysans, faire des concessions aux petits commerçants, offrir aux capitalistes étrangers des concessions avantageuses qu'ils d'ailleurs avaient refusées. Autrement dit, avec la nouvelle politique économique, avec des concessions aux milieux petits bourgeois, l'Union soviétique s'installer dans la coexistence avec le monde capitaliste ambiant. De sorte que cette volonté de rapprochement avec les partis sociaux-démocrates et les syndicats réformistes exprimait cette nécessité d'une pause, d'un arrêt d'offensive et même d'un répit. ...1921... l'insurrection des marins de Kronstadt se prononçant pour les soviets contre sans les communistes marque le grand isolement des communistes en Union soviétique et qui coïncide et qui répond à l'isolement grandissant des communistes dans le mouvement ouvrier international. Un grand repli, une défaite. Il s'agissait de sauver ce qui était sauvable. Cela veut dire cette révolution victorieuse, isolée et misérable. Et c'est là où, à l'intérieur de cette forteresse assiégée, se fait jour de plus en plus une tendance à la bureaucratisation, à la domination, à imposer et non pas convaincre, à obliger et ne pas gagner. Le dernier combat de Lénine, peu avant sa mort, c'est la lutte désespérée et perdue d'avance contre cette montée de la bureaucratie. Contre l'autoritarisme, contre le dessaisissement des soviets de la réalité du pouvoir, cela veut dire contre un autre régime, contre un autre type de pouvoir qui, à l'abri derrière les paravents de la démocratie conseilliste, s'installait, s'implantait, imposer sa domination. La mort de Lénine ne fait qu'expliciter, que projeter sur l'arène publique cette réalité sociale dont il s'est rendu compte peut-être tardivement et contre laquelle il n'a pas su ou il n'a pas pu prendre des mesures efficace. Et c'est alors qu'aussi bien en Union soviétique que sur le plan international intervient une sorte de raidissement. Le front unique, seulement par en bas, cela veut dire avec les ouvriers sociaux-démocrates contre les chefs sociaux-démocrates. En Union soviétique, puisqu'on a fait des concessions sur le plan économique, il faut serrer la vis sur le plan politique. Tous les opposants, tous les gens qui doutent, tous les gens qui critiquent, en prison. Un grand silence tombe sur ce grand pays. Il n'y a plus de critères, il n'y a plus de critères de comparaison, il n'y a plus de possibilité de vérifier ce qui se passe. On a cassé le thermomètre social. Et on dit tout va bien, puisque personne ne dit rien. Et personne ne dit rien, parce qu'on ne peut plus rien dire. Quand Trotsky, tardivement mobilisé, dressé contre ces dangers de la bureaucratisation, se dresse toute une coalition qui l'abat très rapidement, très aisément. Je n'entrerai pas ici dans les détails, dans les péripéties de cette lutte pour le pouvoir qui se répercute très vite sur le plan international. Le Comintern devient le champ clos des batailles entre les différentes fractions du parti bolchevique, à tel point que dans certains de ces partis, la direction ne correspond plus au rapport de force à l'intérieur du parti, mais nommé ou déposé d'après son attitude à l'égard des fractions dominantes du parti bolchevique. Cela provoque bien entendu des remous graves à l'intérieur des différents partis. Cela aboutit à me faire monter à la direction des gens les plus dociles, des gens les plus soumis, et les indociles s'en vont. De Boukharine qui s'en rend tardivement compte de ce qui se passe autour de lui, dit: nous avons maintenant autour de nous toute une pléiade d'imbéciles dociles. Ces imbéciles dociles ont bien vite compris que Boukharine n'était pas un imbécile et malgré les apparences n'était pas suffisamment docile. Et c'est pourquoi on l'a très vite déposé. Et aussitôt après la liquidation des tendances trotskistes ou trotskisantes de l'alliance Andzinoviev et Trotsky, Boukharine à son tour a été chassé du pouvoir, que celle Staline de la vieille équipe a conservé, entouré justement de ces imbéciles dociles dont la quantité augmentait d'une manière un peu inquiétante. Cinquième congrès, raidissement, sixième congrès, décision de rompre complètement avec la social-démocratie, de la rejeter, parce qu'en 1928, les signes avant-coureurs d'une crise économique se font sentir, notamment aux États-Unis. Un des savants de cour, Eugène Varga, annonce ce changement de conjoncture Cette internationale qui vivait sur une période de repli, qui concevait la situation comme celle de stabilisation du capitalisme, subitement change complètement ses batteries, proclame qu'après la première période révolutionnaire allant de 1917 à 1923, après la deuxième période de stabilisation du capitalisme allant de 1923 à 1928, commence une nouvelle période, la fameuse troisième période d'un nouvel assaut révolutionnaire. Crise générale du capitalisme, le capitalisme est au bord de l'abîme. Pour se sauver, il fera la guerre et il la fera tout de suite. Et le 1er août de 1929, l'Internationale communiste proclame une journée de lutte contre la guerre, contre une guerre imminente. Nous étions en dehors du coup. Nous étions des gens venus expliquer aux travailleurs français, allemands, italiens, hollandais que la guerre était imminente, alors qu'elle n'était pas imminente, que la crise était là, alors que la crise n'était pas là, que la révolution, il fallait la faire tout de suite, alors qu'ils n'y songeaient même pas. 1929, troisième période d'assaut révolutionnaire imaginaire. Mais dans cet assaut, il fallait d'abord abattre la social-démocratie encrustée et crustée dans les pores du régime, bien intégrée, bien à son aise dans cette démocratie capitaliste pour ouvrir le chemin de la révolution, il fallait l'abattre. L'ennemi principal de la révolution, ce n'était pas le fascisme montant en Allemagne, ce n'était pas le fascisme installé en Italie, c'était la social-démocratie qui, du jour au lendemain, d'après la sainte volonté de Staline, devenait fasciste, social-fasciste. Il fallait les abattre. Il fallait, je reprends la formule, passer sur les cadavres de la social-démocratie pour vaincre le fascisme. Nous n'avons pas tué la social-démocratie. Et nous n'avons pas vaincu le fascisme. Et en Allemagne, c'est le fascisme qui a vaincu la social-démocratie et les communistes. Et c'est dans un vaste cimetière des illusions perdues, dans les camps de concentration, que les soldats des marais, comme l'a raconté un social-démocrate, reconvertis, se sont retrouvés côte à côte dans leur uniforme de bagnard, les sociaux-démocrates en train de devenir fascistes et les communistes en train de devenir bagnards.